Bonjour et bienvenue dans l'émission. Moi, c'est Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Ce soir, on fait le tour des discussions qui ont animé les dernières 24 heures, et il se trouve que tout se tient un peu. Un lancement d'IA qui sature les benchmarks, et derrière lui, toute une industrie qui se réorganise. Entre open source, rachats milliardaires, plateformes qui peuvent vous couper l'accès du jour au lendemain, et des outils qui changent la façon de coder.
Et pour couronner le tout, des castors, un décagone sur Saturne et un hommage. On commence comme prévu par le gros morceau, GPT-6 Astra. OpenAI a lancé ce nouveau modèle et les chiffres donnent le vertige. Frontier Math Tier 4, saturé à 98%. Exploit Bench, 100%. Et surtout Arcea J3 à 99,9%.
Le chiffre d'Arcea J3 mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il y a deux façons de l'atteindre et elles ne racontent pas la même histoire. Avec le harness standard, Astra obtient 62,7% pour une facture d'environ 26 000 $. Mais avec ce qu'ils appellent le provider adapter, le score monte à 99,9%.
Et c'est là que la discussion devient intéressante. Parce qu'au-delà du score brut, Astra dépasse les humains en efficacité d'action sur RCA J3. Ce n'est plus juste « il résout la tâche », c'est « il la résout avec moins d'action qu'un humain ». Et ça relance le débat sur ce qu'on appelle l'agenticité réelle. Est-ce qu'on mesure une vraie capacité d'agent ? Ou un artefact du harnais de test.
C'est exactement la tension. L'écart entre 62,7 et 99,9% selon le setup, ça veut dire que le résultat dépend beaucoup de la façon dont on interroge le modèle. Une partie de la communauté y voit un signe que le benchmark lui-même arrive en fin de vie. Quand un score sature, il ne discrimine plus. La vraie question non résolue, c'est de savoir quels benchmarks résisteront à la saturation et qu'on pourra encore utiliser demain pour distinguer deux modèles qui seraient tous les deux à 99%.
Et ce débat-là, il ne se limite pas au score. Sur LessRong, on discute en ce moment l'architecture récurrente des loop transformers qu'utilise Astra, une approche où le modèle boucle sur lui-même. Et en parallèle, sur Hacker News, un fil interroge carrément la chaîne de raisonnement. Est-ce qu'elle est une vraie pensée ou une imitation crue de la pensée ?
Et ces questions n'étaient pas théoriques, parce que le lancement a eu des effets très concrets sur l'industrie. OpenAI, Claude et Grok sont tombés simultanément. Parmi les suspects évoqués, des problèmes côté Cloudflare ou Azure, mais aussi un effet de cascade de migration d'utilisateurs, précisément pendant le lancement de la Astra. Beaucoup de monde qui bascule d'un service à l'autre au même moment. Ça met une pression énorme sur l'infra.
Grok a d'ailleurs subi sa propre interruption sur les API et les applis pendant que statut.x.ai rapportait des défaillances. Et sur Hacker News, on a noté la coïncidence avec les chutes de ChatGPT et de Claude.
Ce qui est fascinant dans cette panne simultanée, c'est ce qu'elle révèle. Nos outils d'IA ne sont pas des services indépendants. Ils reposent sur des couches communes. Quand une couche partagée lâche, tout lâche en même temps. Et ça, ça nous amène tout naturellement vers la suite, la consolidation du marché et ce qu'on appelle l'open source dans tout ça.
Parce que dans la même semaine, deux nouvelles très différentes sont tombées. D'un côté, IFM lance K2 Horizon, une flotte de 6 modèles ouverts qui vont de 0,9 milliard à 375 milliards de paramètres. La version 375B à 23B, donc un mélange d'experts, sous licence Apache 2.0. Et il ne libère pas que les poids. Les checkpoints, les données d'entraînement et le code de training sont publiés aussi.
Et ça, c'est rare. Publier les checkpoints, c'est bien. Publier les données et le code d'entraînement, c'est permettre à quelqu'un de reproduire, d'auditer, de refaire le pipeline complet. C'est une définition beaucoup plus exigeante de l'ouverture que le simple « on a mis les poids en ligne ». De l'autre côté du spectre, Nvidia annonce le rachat de Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars, en promettant que la plateforme restera ouverte et multi-accélérateur.
Et c'est là que la discussion se cristallise. Peut-on croire à la promesse ? Le rachat d'un hub aussi central de l'écosystème open source par un fondeur de puces, c'est une concentration énorme du marché. Les commentateurs sceptiques disent « on a déjà vu des promesses d'indépendance avalées par les réalités économiques ». Les plus optimistes répondent que le modèle d'affaires de Hugging Face dépend justement de sa neutralité, qu'il héberge des modèles qui tournent sur tous les accélérateurs, pas seulement Nvidia, et que la clause multi-accélérateur est un gage sérieux.
La vérité, c'est qu'on ne peut pas trancher aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est noter la tension structurelle. Le même marché qui produit des flottes totalement ouvertes, comme K2 Horizon, produit aussi des rachats à 13 milliards qui concentrent les infrastructures. Les deux mouvements sont réels, simultanés, et en tension l'un avec l'autre. Et dans cette économie de l'inférence, l'infra ouverte existe déjà sous une autre forme. Cerebra propose Qwen 3. 8.27D à environ 1500 tokens par seconde sur un endpoint public, avec du prompt caching sans frais supplémentaires. Les tokens en cache sont facturés au prix standard.
1500 tokens par seconde. C'est le genre de vitesse qui change l'expérience utilisateur. Les réponses arrivent quasi instantanément, et les agents qui font plein d'allers-retours deviennent pratiques. Mais cette question de l'infrastructure nous amène au troisième sujet, et celui-là, il est plus inconfortable. Les plateformes qui peuvent couper le cordon.
Deux histoires qui se répondent. La première, les conditions d'utilisation de Google Anti-Gravity autorisent la suspension d'un compte Google entier pour ce qu'ils appellent un usage suspecté par des tiers. Et Gergi Leroz a tiré la sonnette d'alarme là-dessus. Si votre usage est suspect, tout votre compte, Gmail, Drive, tout, peut tomber. Le risque, c'est la dépendance totale à une plateforme sans vraie procédure de recours.
La deuxième est encore plus radicale. L'ICANN a approuvé la destruction des domaines de troisième niveau du main. Résultat, environ 22 000 utilisateurs perdent leur site, leurs emails et leurs services en février. Parmi eux, Neil Fraser, dont le cas a été largement commenté.
Ce qui est saisissant dans le parallèle, c'est que dans les deux cas, la décision vient d'ailleurs. Ni Neil Fraser, ni les utilisateurs du main n'ont fait quoi que ce soit de mal, c'est une décision de gouvernance de nom de domaine qui balaye leurs existences numériques. Et chez Google, c'est une clause de condition d'utilisation qui met tout votre univers numérique en danger à cause d'un usage suspecté, pas prouvé. Le fil rouge, c'est ça. Notre présence en ligne repose sur des couches qu'on ne contrôle pas, et ces couches peuvent être retirées sans négociation.
Et ce n'est pas qu'une affaire technique. Ça rejoint aussi les questions de gouvernance côté rédactionnel. Au New York Times et au The Athletic, les travailleurs, via le syndicat News Guild, ont voté à l'unanimité pour exiger l'annulation du partenariat avec Kalshi, une plateforme de marché de prévision. Un vote à l'unanimité, c'est rare, et ça montre le degré de rejet. La rédaction ne veut pas que son travail alimente un marché de paris sur l'actualité. C'est encore la même question, sous un autre angle, qui décide de ce qu'on peut faire de l'information et des contenus.
Exactement, et justement, l'information, la façon dont on la produit, la façon dont on code, c'est le sujet suivant, et c'est peut-être le plus parlant de la soirée. Une histoire qui a beaucoup circulé. Un créateur a porté un jeu Amiga de 1993 vers Godot en une nuit. Le jeu, c'est 72 007, 158 lignes d'assembly, 68 000. Une nuit. Et l'outil, c'est Claude Fable 5. Le jeu est d'ailleurs libéré gratuitement.
Il faut prendre une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. 72 758 lignes d'assembly, 68 000, c'est du code très bas niveau, très dépendant du matériel Amiga, les blitters, les timings vidéo, tout ça. Le porter vers un moteur moderne comme Godot, c'est normalement un projet de semaines, parfois de mois, fait par des passionnés qui démontent le binaire. Là, une nuit, avec un agent de code.
Et la discussion sur Hacker News s'est emparée de cette histoire, avec des réactions partagées. D'un côté, l'émerveillement. La barrière à l'entrée pour la préservation du patrimoine logiciel vient de s'effondrer. Des milliers de vieux jeux pourraient être ressuscités comme ça. De l'autre, la nuance. Une nuit pour faire tourner, mais quelle est la qualité du portage? Est-ce que le code généré est maintenable, fidèle, documenté? Et il y a aussi la question du rôle exact de l'humain dans la boucle. Une nuit, c'est aussi une nuit de supervision, de décision, de test. L'agent a-t-il fait le travail? Ou l'humain a-t-il dirigé un travail?
Ce qui rend cette question encore plus intéressante, c'est que les données commencent à arriver. Armature, une start-up du YCP26, a mesuré environ 17 000 sessions de Cloud Code, de Codex et de Cursor. Et le résultat le plus frappant, le recours à la recherche web varie énormément selon les outils. Certains agents cherchent presque tout le temps sur le web, d'autres presque jamais.
Et là, il y a un point sensible. Un conflit d'intérêts a été révélé dans cette étude. Si l'outil qui mesure les agents est lié à l'un des outils mesurés, il faut lire les résultats avec prudence. Les commentateurs ont fait exactement ce reproche, et c'est sain. Ça ne veut pas dire que les données sont fausses, mais que l'interprétation, pourquoi tel agent cherche peu sur le web, peut être influencée par qui la finance. Un agent qui ne cherche pas sur le web, est-ce qu'il est plus efficace, ou est-ce qu'il est configuré pour rester dans l'écosystème du fournisseur? La question reste ouverte.
Et pour boucler la boucle avec le début de l'émission, pendant qu'on mesure comment les agents codent, LessRunk discute l'architecture des Loop Transformers d'Astra, et Hachène demande si le Chain of Thought n'est qu'une imitation crue de la pensée. Au fond, ses fils racontent la même interrogation. Quand on voit un agent porter un jeu Amiga en une nuit, on ne sait pas encore dire s'il comprend ce qu'il fait, ou s'il reproduit très habilement des motifs vus ailleurs.
C'est peut-être la vraie frontière à surveiller dans les mois qui viennent. Bon, on change de registre, mais en douceur. Après les machines, la science et la nature, et croyez-moi, la nature fait des choses que nos modèles ne font pas.
Alors, première histoire, côté ciel. Les astronomes ont trouvé, via Hubble, un décagone, une forme à 10 côtés, au pôle sud de Saturne. Et détail vertigineux, il se serait formé vers 2024. En face, au pôle nord, il y a le fameux hexagone, connu depuis des décennies, qui reste lui-même un mystère complet.
Et c'est ça le plus troublant. On n'a toujours pas d'explication consensuelle pour l'hexagone nord, et maintenant la planète en produit un deuxième, avec un nombre de côtés différents, très récemment. Ces formes polygonales dans les jets atmosphériques au pôle défient nos modèles de fluide. Est-ce que c'est stable? Combien de temps va-t-il durer? Pourquoi 10 côtés et pas 6? Personne ne le sait, et c'est très rafraîchissant de le dire.
Côté Terre, maintenant, et une belle leçon d'ingénierie écologique, sauf que les ingénieurs ne sont pas humains. En Californie, des represses artificielles de castors, donc des barrages construits à la manière des castors, ont fait grimper la survie du saumon coho juvénile à French Creek de 8% à 60%.
De 8 à 60%, c'est un facteur 7,5. Ce que font ces barrages, c'est créer de l'eau calme, profonde, là où les jeunes saumons peuvent se nourrir et échapper aux prédateurs et aux variations de débit. Et la discussion qui en découle est belle. Est-ce qu'on installe plus de ces structures partout ou est-ce qu'on réintroduit de vrais castors qui entretiendront les barrages eux-mêmes, gratuitement, indéfiniment? L'argument pour les vrais castors, c'est l'auto-entretien. L'argument pour les structures artificielles, c'est le contrôle. Le débat est ouvert.
Et pour finir ce volet science, une histoire qui a beaucoup fait sourire et rêver. Trois adolescentes irlandaises ont testé 13 000 graines pendant 3 ans. Leur découverte, une bactérie, le rhizobium, accélère la germination de l'orge jusqu'à 50%. Le projet a gagné le Google Science Fair.
13 000 graines, 3 ans, c'est une rigueur de laboratoire professionnel. Et rhizobium, c'est une bactérie connue pour sa symbiose avec les légumineuses, pas typiquement avec les céréales comme l'orge. Donc si ça se confirme, c'est une piste agronomique sérieuse. Accélérer la germination d'une culture majeure avec un inoculant bactérien, c'est potentiellement moins d'intrants chimiques. Évidemment, comme toujours en science, la question suivante, c'est la reproductibilité et le mécanisme. Est-ce que la bactérie fixe de l'azote, est-ce qu'elle produit des hormones de croissance ou autre chose? Le prix a récompensé la méthodologie. La biologie reste à élucider. Et puisqu'on parle de vie qui laisse une trace, il faut prendre un moment pour une disparition. Gloria Steinem est morte à 92 ans, à New York.
Féministe et journaliste, auteur de 9 livres, active depuis les années 1960, et active, dans son cas, c'est peu dire, plus de 60 ans de militantisme, de reportage, d'écriture. Sa mort a suscité une vague d'hommages, mais aussi, dans les discussions, une réflexion sur ce qu'elle laisse derrière. Une façon de faire du journalisme engagé, et des combats qui, selon beaucoup de commentateurs, sont loin d'être terminés.
Et de façon assez saisissante, son décès est arrivé à côté d'un projet qui remet la vie humaine en perspective. Un site appelé Any Human Ever, qui vous fait tirer au sort une vie parmi les plus de 100 milliards d'humains qui ont jamais existé, avec des données démographiques réelles.
Et c'est là que les deux histoires se répondent d'elles-mêmes. Tirer une vie au hasard parmi ce milliard, c'est presque statistiquement certain de tomber sur une vie courte, pauvre, sans trace écrite. Gloria Steinem est, statistiquement, l'exception absolue. Quelqu'un dont la vie a été documentée, publiée, débattu pendant 60 ans. Les deux projets, l'hommage et le site, disent la même chose par des moyens opposés. Une vie humaine, c'est rare, et la grande majorité ne laisse pas de livre derrière elle.
Et pour finir sur une note plus quotidienne, mais qui montre que l'écosystème logiciel n'attend personne. Deux outils ont livré des versions majeures. Audacity 4.0 a refait son interface en Qt 6, avec un nouveau modèle d'édition de clips, des workspaces et des thèmes clairs, sombres et à contraste élevé. C'est un changement de fond pour un logiciel que beaucoup utilisent depuis 20 ans sans jamais le voir bouger.
Et Polar 2.0, en pré-release, passe à son moteur de streaming par défaut, avec environ 5 fois plus de vitesse au compteur, mais aussi un comportement plus strict sur les coercions de type et les concaténations. Et ce point-là a nourri un vrai débat. La vitesse, tout le monde est pour. La rigueur accrue, c'est plus divisant, mode code existant peut casser. Les défenseurs disent qu'il vaut mieux une erreur explicite qu'une conversion silencieuse qui corrompt les données. Les mécontents disent que c'est un coup de migration réel. C'est le compromis classique de tout changement de version majeure.
Donc voilà, en résumé de la soirée, un modèle qui sature ses propres benchmarks et fait tomber les serveurs. Une industrie qui se concentre et s'ouvre en même temps, des plateformes capables de couper le cordon, des agents qui portent des jeux Amiga en une nuit, un décagone qui apparaît sur Saturne, des castors qui sauvent des saumons, des lycéennes qui font germer l'orge et une vie de combat qu'on salue.
Ce qui relie tout ça, c'est peut-être la question de la fiabilité, des benchmarks, des plateformes, des modèles, des écosystèmes, ce sur quoi on peut vraiment compter et à quelles conditions.
Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve dans les prochaines 24 heures.